la salle ne désemplissait pas. À tout instant, un corps mutilé ou agonisant venait s'échouer dans ce cloaque surpeuplé où les cris de douleur le disputaient aux odeurs de sang. Malgré le rideau qui séparait la salle improvisée du conseil des travées où s'entassaient les blessés, des relents putrides envahissaient tout l'espace. Guillaume de Beaujeu, grand maître du temple, plongea sa tête entre les mains. Dehors, la bataille faisait rage. En fin de matinée, la tour maudite était tombée aux mains des hommes du sultan. Jamais cette tour n'avait si bien porté son nom. À chaque siège de Saint-Jean d'Acre, sa perte avait signifié la chute à venir de la ville. Tous savaient qu'il était impératif de la reprendre, quel que soit le prix à payer. Tous en étaient convaincus, tous, sauf Guillaume de Beaujeu. Lui qui avait traversé tant de batailles, oxy tant d'ennemis, versé son sang sur tous les chemins d'Orient, lui dont la gloire et le nom résonnaient des deux côtés de la Méditerranée, lui seul ne se sentait plus le courage désormais de monter à l'assaut. Depuis que la décision avait été prise d'engager toutes les troupes disponibles dans une contre-attaque désespérée, il était resté là à attendre qu'un miracle se produise, que sa volonté reprenne le dessus, que la peur et la honte cessent de l'habiter. En vain. Un ressort était brisé. Il n'était plus Guillaume de Beaujeu, grand maître de l'ordre du Temple, mais un homme usé, un chevalier fini, dont le corps se mettait à trembler au moindre cri d'un blessé. L'odeur de mort devenait de plus en plus forte. Dans la salle principale, un hurlement monta, vrilla et s'évanouit brusquement tandis qu'une prière s'élevait, qui recommandait une âme de plus à Dieu. Enfer et paradis seraient bien garnis aujourd'hui. Guillaume de Beaujeu se recroquevilla sur lui-même en gémissant. Ses entrailles le déchiraient. La sueur gouttait de son front. La peur le mettait à nu. « Il est là !» Le rideau s'ouvrit. La silhouette osseuse de Caetani, le confesseur, apparut, les mains croisées sous sa soutane. Le visage de Beaujeu, déjà tourmenté par l'épouvante, prit un teint cireux, comme si même le sang avait choisi de se retirer de ce corps sans espoir. Deux hommes portant un turban noir tirèrent précipitamment le rideau. Seuls leurs yeux se détachaient, pareils à des braises incandescentes. « Il est l'heure, maître !» annonça le confesseur. Guillaume de Beaujeu eut un mouvement de recul. « Non, Caetani, non !» Je préfère encore la honte à... Hassan, Brahim, saisissez-le! Les deux infidèles se précipitèrent sur lui. En un instant, Guillaume de Beaujeu fut cloué au sol. Dans sa tunique, Brahim prit un compas dont il posa l'une des extrémités sur la tempe du grand maître. J'ai placé la main de Dieu sur cet homme. Donne-moi le premier chiffre qui est saint et qui n'appartient qu'à Dieu et à son véritable prophète, compléta Hassan. Maintenu au sol par le second infidèle, Guillaume de Beaujeu tenta de se débattre. En vain. « Allah a confié à son prophète les chiffres justes, » continua Hassan. « Là où s'ouvre la porte du paradis, là où se dévoile le temple secret, là où nul homme ne pénètre sans avoir perdu toute humanité. Ce péché, cette faiblesse qui le sépare de Dieu. Forme le premier chiffre pour que s'élève la colonne du Nord. » ordonna Brahim. Posément, Hassan sortit une équerre de sa poche et s'en servit pour régler l'écartement du compas. Aussitôt, la pointe posée sur la tempe du grand maître incisa horizontalement la chair. « Nous avons le premier chiffre !» dit Brahim. « Forme le second et que l'angle soit parfait !» De nouveau, Hassan prit l'équerre et régla l'écartement. Le compas changea de position et la pique acérée s'ouvrit un chemin vertical dans l'épiderme. Une croix de sang apparut sur la tempe de Guillaume de Beaujeu. D'un geste précis, Brahim enfonça l'extrémité du compas au centre de la croix. « Et maintenant, Guillaume de Beaujeu, jamais plus tu ne connaîtras la peur !» La pointe d'acier transperça le crâne. Première partie. « Je peux tuer et rire en même temps. » William Shakespeare, Richard III. De nos jours, un patron doit être révolutionnaire pour pouvoir survivre. Vladimir Bukovski, poète